de notre engagement. Écoutez-nous 24 heures sur 24 sur le DAB+ et l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android. Le Flash, Elsa Parienté.
L'armée de l'air israélienne continue d'intercepter les drones lancés depuis l'Iran vers Israël. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Tzahal. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a nommé Abdelrahim Moussavi, chef des forces armées iraniennes, Mohamed Papkour, commandant des forces terrestres des gardiens de la Révolution, et Ali Shadmani, commandant de l'état-major central de l'armée israélienne. Durant la nuit, la division du renseignement a identifié que les hauts responsables de l'armée de l'air du corps des gardiens de la Révolution islamique se rassemblaient dans un quartier général souterrain pour préparer une attaque contre Israël. Des avions de chasse israéliens ont alors frappé le quartier général où se trouvait le commandant de l'armée de l'air. L'information a été rapportée par le porte-parole de Tzahal, qui a ajouté que le commandant du quartier général des drones et le commandant du quartier général de la défense aérienne ont également été éliminés. Le ministre israélien de la défense, Israël Katz, devrait s'entretenir avec le secrétaire américain à la défense dans les prochaines minutes et prochaines heures. Le président Donald Trump avait, pour rappel, commenté un peu plus tôt la situation au Moyen-Orient sur son réseau social Truth Social. J'ai donné à l'Iran l'opportunité de conclure un accord. Je lui ai dit avec la plus grande fermeté, faites-le tout simplement. Mais malgré tous les efforts et leurs efforts, ils n'y sont pas parvenus. Fin de citation. h 01 sur RCJ. Dans un instant, retrouver un livre, un lecteur avec Florence Berthoud, et ce sera ensuite la musique de ma vie, l'invité de Laurent Couson aujourd'hui, l'actrice et productrice Julie Gaillet. Très belle journée sur RCJ.
Écoutez-nous 24 heures sur 24 sur le DAB+ et l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android. Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
Bonjour Laurent Matron.
Bonjour Florence Berthoud.
Alors, je reçois un musicien, mais peut-être pas un musicien comme vous imaginez, parce que c'est un musicien qui est interprète, improvisateur, saxo, autre chose j'imagine aussi.
Saxophone, parce que... clarinette basse, oh là là. Tarogato. Et puis.
Alors c'est quoi Tarogato?
Tarogato, c'est comme une clarine, quoi. C'est un mélange de clarinette et de saxophone, c'est-à-dire que c'est un saxophone en bois qui vient de Hongrie.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et alors il faut dire que Laurent Matron, en plus, il conçoit des instruments inédits.
Voilà, des sculptures.
Mais vous avez le temps parce qu'il est par ailleurs directeur du conservatoire Gabriel Fauré, plus un certain nombre d'autres trucs qu'on va découvrir en le présentant. C'est quoi les instruments inédits, cher Laurent Matron?
Alors, ce sont des sculptures sonores. C'est Yoshko Sefer, un saxophoniste plasticien hongrois qui vit en France depuis très longtemps.
Qui a inventé les sculptures sonores.
Qui est l'initiateur de ce concept. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant des années. J'ai fait mes études avec lui pour la partie jazz. Et donc voilà, il m'a initié, je jouais ses instruments et...
Alors donnez-nous un exemple, après vous irez tous googliser Laurent Matron, vous verrez, et puis Yoshko Sefer.
L'idée en fait, c'est de prendre des tuyaux qu'on peut trouver ou en fabriquer.
Voilà, dans ce studio, on va bien trouver un tuyau.
Voilà, et on y branche un bec de saxophone, puisque je suis saxophoniste, ouais. et on découvre des sons qu'on inouïe au sens propre, voilà.
Alors, faut dire que vous êtes aussi un incroyable improvisateur. Hein. Ceci explique un peu cela. Et vous avez aussi travaillé avec un ou des poètes plasticiens. C'est un peu la même idée, c'est créer des passerelles toujours pour vous.
Ah oui, depuis toujours, j'aime mélanger les arts. Et puis donc avec surtout là, vous faites allusion à David et Napoli sûrement.
Oui, tout à fait.
En fait, le point de départ, c'est qu'avec ces sculptures sonores, quand Yoshko s'en servait comme instrument d'improvisation, moi j'ai voulu, parce que c'est aussi une de mes activités interprète, j'ai voulu y associer des compositeurs. Donc j'ai demandé à des compositeurs d'écrire pour des instruments inouïe, unique. Donc, c'est compliqué pour eux parce que le but d'un compositeur, quand même, c'est de diffuser sa musique. Ouais. Là, ça restreint un petit peu le champ des possibles. Et donc, depuis quelques années, je travaille avec Jean-Yves Bosseur, qui est un grand musicologue et aussi compositeur. Et avec avec lequel on a travaillé avec David et Napoli, et maintenant je travaille avec ce poète plasticien.
Et alors quand on vous écoute, eh ben on dit que la musique c'est aussi ce qu'on perçoit pas forcément quand on n'est pas un musicien ou une musicienne chevronnée, un espace et de la matière. Et votre manière d'apprendre la musique, ça nous dit aussi ça, non? Ça nous ramène un peu au mal, hein? Ou pas.
Alors oui, le mât, c'est oui, non, c'est peut-être un petit peu un petit peu différent, puisque là c'est le concept oui, japonais du vide entre les choses. Mais oui, dans tous les cas, c'est plutôt vide qui fait lien. Donc vous avez raison, en fait, c'est le lien entre toutes mes activités,
Parce que vous êtes aussi membre d'ensemble prestigieux, l'ensemble des saxophones de France, le septuaire des saxophones. J'en oublie, évidemment. Et à côté de tout ça, parce qu'il y en a qui resteraient dans leur monde, ce qui ne diminue pas leur mérite, mais vous avez ce souci de transmettre, parce que quand on est directeur d'un conservatoire, il faut aussi avoir ça un peu dans le sang, si vous me passez l'expression.
Oui. Alors ça.
Qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'était naturel à côté de.
J'ai très vite enseigné. J'ai très vite partagé ma passion avec des jeunes, des apprentis saxophonistes. Et puis ça fait quand même un petit moment que j'avais envie de passer à la vitesse supérieure ou de rendre les choses possibles, en fait, de sortir de ma salle de cours, tout simplement. Et voilà, donc j'ai intégré la ville de Paris en tant que conseiller aux études dans un premier temps, et puis je suis arrivé au conservatoire Gabriel Fauré en novembre.
Voilà.
Et donc il y avait cette envie de partage et de transmettre.
Et les élèves vous le rendent bien. Alors, on va découvrir avec vous un écrivain, ou redécouvrir, Éric Vuillard, Tristesse de la Terre, qui est l'histoire, Tristesse de la Terre, de Buffalo Bill Cody, mais dit comme ça, c'est très, très réducteur. Vuillard, c'est le Goncourt 2017, je le rappelle, l'ordre du jour. On était dans les coulisses de l'Anschluss. Alors bravo, parce que franchement, quand on lit l'ordre du jour, en effet miroir à aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des trucs qui avancent dangereusement.
Et c'est sûr.
Hein, il fait ça avec son écriture très très concise, très démonstrative. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le chantre de de la non-fiction. Voilà, c'est l'histoire, des récits courts, très très documentés.
Très documentés, tout est exact.
Tout est exact. Il a plusieurs cordes à son arc, si j'ose cette expression devant un musicien, parce qu'il écrive un poète, mais il est aussi réalisateur, il a fait des films, et je trouve que il y a parfois un côté un peu film dans ces bouquins. Alors juste pêle-mêle, des premiers romans, Le Ton est donné.
Ah oui, c'est ça. Après Conquistador, non?
Voilà, Conquistador. On est en 2009. C'est la conquête du Pérou par Pissarro, et donc.
C'est ça.
Un véritable génocide, faut quand même.
Oui, il est souvent question de génocide en réalité.
Non, les Incas d'ailleurs, comme les Aztèques, quelques années après, quelques dizaines d'années après, mais très 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 vite, la population est totalement totalement décimée.
Complètement.
Voilà, elle est décimée par les maladies. Elle est décimée par évidemment
par les Espagnols,
par les Espagnols.
Oui.
Et puis elle est décimée aussi pour d'autres raisons, mais
des luttes internes.
Des luttes internes et comme toujours dans ces génocides, il y a des populations locales qui soit ferment les yeux, soit accompagnent les conquérants. Presque toujours, l'histoire des génocides C'est ça. C'est...
Oui, pour des questions de rivalité.
Pour des raisons de rivalité, les Incas, c'est extrêmement clair. Et puis en plus, c'est une grande histoire, parce que chez eux, l'art de la guerre, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et donc, évidemment, par exemple, des destructions totales de villes, ça n'existait pas chez ces peuples-là. Voilà. Ils pouvaient être très sanguinaires, et évidemment...
Oui, Eric Vuillard le montre bien. Les Incas sont abasourdis, ne savent pas comment réagir face à l'ampleur des massacres, et parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'incompréhensible.
Voilà. Alors qu'ils pouvaient eux-mêmes faire des sacrifices humains par milliers. Hein, voilà. C'est pas non plus... voilà, donc, il explique bien ça. Il y aura la bataille de l'Occident sur la Première Guerre mondiale. Il y a le Congo... alors, le Congo, c'est la colonisation des Belges. Alors là encore, Léopold, les incroyables atrocités. Le point de vue des anonymes sur le 14 juillet. Voilà. Et puis, la décolonisation. Enfin, bref, et quand même l'obsession de dire vraiment ce qu'est cette histoire. Parce que il y a quand même, cher Laurent Matron, une évidence, c'est que l'histoire... il faut jamais oublier qu'elle est toujours écrite par les vainqueurs. Elle est toujours écrite par les vainqueurs, l'histoire.
C'est vrai. Mais là, c'est quand même un point de vue décentré.
Oui, c'est pour ça
Et surtout, moi, en fait, ce qui me fascine dans ce genre de...
Éric Vuillard.
D'écrit, et puis d'Éric Vuillard en particulier, c'est cette capacité à transcender ce mal absolu, en réalité. Parce que cette histoire de Buffalo Bill Cody, c'est aussi un regard sur le massacre des Indiens, d'Amérique du Nord. Et
alors on a choisi,
ils ont fait une œuvre d'art.
Vous avez choisi Tristesse de la Terre. Voilà.
Tristesse de la Terre, une histoire...
2014, 2015, voilà. Quelque chose comme ça.
Une histoire de Buffalo Bill Cody. Et donc voilà... De ce mal absolu, il en fait une œuvre d'art. Et c'est quelque chose qui nous transcende, que je trouve admirable et qui me touche infiniment.
Ouais. Il va à l'essentiel toujours.
Il va toujours à l'essentiel.
C'est pas élégiaque, hein, mais c'est très très efficace.
Et d'une grande poésie.
Et c'est d'une grande poésie, tout à fait. Et c'est d'une grande poésie. Alors, il va nous faire revivre, non pas réinterpréter, mais revivre la réalité de l'extermination d'une partie des peuples amérindiens à travers quelque chose qui est pour nous nouveau, où on n'a pas eu sans doute conscience de à quel point l'image, même quand la télé n'existait pas, était importante, à travers du Wild West Show. Alors, pour les auditeurs, dites-nous ce qu'était ce Wild West Show. Un truc
gigantesque,
dingue, comme diraient les jeunes, mais vraiment de dingue.
C'est un spectacle, en fait. Voilà, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision, et donc il y a des spectacles itinérants. Mais là, ça prend des proportions complètement phénoménales. Ouais. Avec ce Buffalo Bill qui est à la base un ranger.
Alors on va revenir sur la réalité de ce qu'a été Buffalo
Bill.
Et
donc on construit une légende, c'est construit de toutes pièces. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça préfigure, évidemment le cinéma qui va arriver avec tous les westerns.
Ouais.
Et
sur la conquête de l'Ouest,
les cow-boys. Voilà, donc tout est codifié, les cris des Indiens qui sont inventés de toutes pièces.
Vous vous rendez compte, alors là, ce point-là, alors moi j'ai replongé plusieurs, je devrais dire décennies en arrière, quand j'étais môme, le wouhou des
Exactement,
Indiens,
pour avec nous, la main devant.
Avec la main devant. Mais lisez le bouquin d'Éric Vuillard, c'est inventé de toutes pièces.
Et ça a infusé, et on en est les héritiers. Mon père, mon oncle étaient des grands et sont des grands amateurs de western. Mais ça ne vient pas de nulle part, en fait. Leur grand-père à eux avait vu le Wild West Show qui s'était produit. Mais oui, parce qu'en fait, ça avait sillonné l'Europe
et pendant 20 ans. Hein.
Pendant 20 ans.
Les États-Unis.
Et à Paris, donc c'était de mémoire, c'était mis en 1880. En 1905, c'était à l'Hippo Palace, qui se trouvait place Clichy avant le Gaumont Palace. Voilà.
Alors, le Wild West Show, c'est pendant 20 ans un immense barnum.
C'est ça.
qui va, alors ça préfigure les immenses trucs, hein, le Cirque du Soleil, sauf que le Cirque du Soleil, c'est pas du tout, c'est quelque chose pour se détendre, on n'est pas en train de réécrire l'histoire. Il y avait 2 séances par jour.
C'est ça.
J'ai recherché.
Exactement.
800 personnes. Vous imaginez, au 19e et début 20e siècle, 800 personnes à travers le monde, 500 chevaux, des dizaines de bisons. Incroyable. Et il va même, à un moment donné, il y aura un grand chef Sioux.
Sitting Bull, ouais.
Sitting Bull.
C'est ça. Et c'est...
Et la reine Victoria va le voir, enfin... Tout le monde veut voir ce...
Oui, c'est un succès.
Tout le monde a été biberonné, cher Laurent Matteron.
C'est exactement ça.
À ça, franchement. Et on croit effectivement que la conquête de l'Ouest, eh bien, elle est légitime, que ce sont des bons wasps qui étaient tués, égorgés par les
méchants indiens, c'est ça. Tout à fait.
Incroyable.
Et donc c'est vraiment ça préfigure la société du spectacle. Voilà, c'est dans un.
C'est une falsification de l'histoire. Enfin, ce truc-là est une vraie falsification.
C'est ça, et c'est dans le western, l'homme qui tue à Liberty Valance. Il y a cette phrase qui est fabuleuse quand même. C'est un journaliste qui dit ça. On est dans l'Ouest ici. Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est quand même souvent ce qui se passe encore aujourd'hui.
Oui.
En dépit de ce qu'on appelle le journalisme d'investigation, on aime quand même bien quand la légende dépasse la réalité.
Tout à fait.
Voilà. Et parfois, on tire vraiment très très loin le fil de l'irréalité. Alors, ça démarre le bouquin avec l'exposition universelle de Chicago, cher Laurent Matteron. Et alors, il y a quand même un truc. Alors, on est en 1893. C'est sur les 400 ans là, de la découverte
de l'Amérique.
De l'Amérique par Colomb, enfin, qui pensait découvrir, faut le rappeler, l'Inde et pas du tout l'Amérique. Hein, d'ailleurs, il n'avait même pas sur les terres américaines. Il arrive.
Dans les Antilles.
Hein. Dans les Antilles. Bon, mais passons. Et dites donc, ce qu'on présente, c'est terrible.
Ça commence très très fort, effectivement. C'est d'abord donc le cadavre d'un bébé, d'un nouveau-né indien, effectivement. Et voilà, là, pour le coup, je crois qu'on est tous en Amérique, donc là c'est à Chicago, cette exposition universelle, mais cette démonstration de, entre guillemets, sauvage,
ouais.
dans les foires, dans les ouais. expositions universelles, c'est malheureusement monnaie courante à l'époque.
Ouais. Ouais.
Donc là, on atteint quand même un summum avec ce bébé.
Et en France, on n'y a pas échappé. Hein, la Vénus au Tantot, etc. Enfin, voilà.
Exactement.
C'était, on adorait ça. Hein, le film Elephant Man, est là-dessus, ouais. D'ailleurs. Et alors, sur le style, il décortique la réalité des faits. Ça se lit vraiment très bien. Hein, la tristesse de la Terre, vraiment... moi, je me suis dit que j'allais donner ça à lire aux enfants. On devrait d'ailleurs dire à tous, peut-être pas les collégiens, mais les lycéens, de lire ce bouquin-là. Les livres, d'ailleurs, de Vuillard, c'est quoi ? C'est 150 pages, mais écrit, ça se lit vraiment...
Ça se lit très vite, oui.
Très, très facilement. Et on a une narration qui est vraiment au service de l'histoire, mais de la vraie histoire qui est souvent manipulée.
Et avec un parti pris esthétique qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, il transcende l'horreur en un objet artiste, quoi, en un objet d'art, en fait, en une œuvre d'art. Voilà, et aujourd'hui, il y a quelques écrivains comme ça qui,
ouais.
Je pense à Jean Hatzfeld, par exemple, ouais. sur la tragédie du Rwanda, voilà, qui de l'horreur brute en dégage quelque chose qui nous dépasse,
ouais.
et c'est un beau message.
Ouais, les scènes sont frappantes.
Oui.
Elles sont frappantes, elles sont visuelles. Je reviens
tout à, fait,
à ce
oui.
deuxième métier hein, de VIA,
cinéaste, ouais.
qui est le cinéma. Et je dois dire que c'est très efficace. C'est très efficace. Et en même temps, il y a ce style. Alors, à propos de style, et puis je voudrais qu'on revienne... après, ce qui est une tradition dans cette émission, c'est-à-dire une lecture, un bout de lecture par l'invité. Qu'on revienne sur ce William Frédéric Cody, qui a été présenté comme un personnage drôlement sympatoche. C'est vrai, bon, quand on dit Buffalo Bill, bon, en fait, Buffalo Bill, c'est quelqu'un d'assez sanguinaire qui, d'ailleurs, est totalement mégalo. Vous nous lisez un petit passage, et puis après, vous allez nous parler de Buffalo Bill et de Sitting Bull, parce que mettre en effet miroir les deux, je trouve que c'est intéressant. Alors, Tristesse de la Terre, d'Éric Villard. Moi, je l'ai aux éditions, je ne sais pas quoi, mais c'est il a beaucoup...
Actes Sud.
Oui, c'est Actes Sud, bien sûr, puisqu'il a démarré d'ailleurs avec Actes Sud, qui le suit depuis toujours. Découvreur d'immenses talents, Actes Sud.
Donc, on est à Nancy. Enfin, on s'installa tout au bout du boulevard, au bord d'un grand chemin. Les tentes et les gradins furent montés en quelques heures. L'équipe était rodée. Buffalo Bill décida de donner deux séances par jour, une à 14h, l'autre à 20h. Ah, pour 1,65 francs, comme il dure être heureux, les petits gamins de Nancy et de Bar-le-Duc. Comme il dure être subjugué par les bisons, ces aurochs inconnus qu'on avait seulement vus en dessin dans le Larousse universel. On rentrait en tramway de Jarville à la place Carnot, puis on se dispersait dans les rues de l'hiver. C'était presque Noël, les vitrines étaient éclairées, les marchands de marrons hurlaient, ça sentait bon, on rêvait. On avait acheté quelques cartes postales pour les grands-parents. C'est qu'on avait vu Annie Oakley tirer à la carabine et pulvériser des centaines de boules de verre comme une nuée de rêve. Et on avait pris cela pour le rêve lui-même.
C'est magnifiquement écrit. Alors, ce Buffalo Bill, parce qu'on va le découvrir sous un autre jour, cher Laurent.
C'est un supplétif de l'armée américaine, c'est un fanfaron, il va travailler un moment pour alimenter, donc en tuant des bisons, ouais. D'où son surnom, pour alimenter les ouvriers qui construisent les voies de chemin de fer.
Il a fait la guerre de sécession, avant ?
Je crois qu'il, oui, il a
oui,
dû participer.
Il a participé à la guerre de sécession.
Et voilà, il se fait embarquer par un impresario, en fait. Et ils vont monter d'abord un petit spectacle qui va prendre des proportions, donc les proportions dont on a parlé. Effectivement, complètement mégalo. Mais ce qui est vraiment touchant dans le livre d'Éric Villard, pardon, c'est que voilà, c'est pas non plus la figure du mal absolu. On voit aussi ses faiblesses, sa sensibilité. Voilà, simplement, c'est quelque chose qui le dépasse et il est ridicule. Ça, par contre,
il est vraiment ridicule.
Il est ridicule et il y a en complément, il y a un film assez méconnu de Robert Altman qui s'appelle Buffalo Bill et les Indiens, qui est assez difficile à regarder parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en fait c'est vraiment complètement en lien avec le livre d'Éric Villard. Voilà, il démonte en fait le mythe Buffalo Bill.
La seule chose qui est peut-être vraie chez Buffalo Bill, c'est qu'il aurait tué 4200 bisons. Ça c'est vraisemblable
peut-être,
mais pour le reste il en a beaucoup rajouter évidemment sur les attaques de négligence, hein, fallait faire venir du public. Donc,
voilà, puis surtout la nouveauté de ce spectacle, c'est de faire venir la réalité et donc de faire venir ce grand chef indien Sitting Bull pour en fait rien.
Parce que
les
Amérindiens jouent leur propre rôle.
Voilà.
Enfin, leur propre rôle.
Les Indiens sont là. Et alors après, le comble, c'est qu'il fait croire qu'il a participé à la bataille de Little Big Horn, où justement Sitting Bull avait écrasé l'armée américaine.
Il avait vraiment humilié, c'était un des deux grands chefs, sans doute avec Geronimo, Sitting Bull et Geronimo.
Oui, c'est des grandes figures.
Des Apaches et des Sioux, c'est les deux grands chefs, quoi.
C'est ça, Cochise aussi. Et voilà. Et alors le cynisme absolu, c'est quand Buffalo Bill va retourner après le massacre de Wooden Knee, récupérer en fait la cabane de Sitting Bull où il a été assassiné, et récupérer les quelques objets pour qu'il a retrouvé là-bas pour les intégrer à son Wild West Show.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Sitting Bull, il va un temps dans le spectacle et puis il repart. Il repart dans sa réserve et il va être abattu. D'ailleurs, j'ai gardé ce spectacle, un policier tire à bout portant. C'est toujours très bref et efficace. Oui. Sitting Bull vacille, Peut-être qu'il entend une dernière fois les huées s'élever des gradins. Il voit les horribles petits visages des hommes vivants. Lui, la chose morte. Et puis un autre policier avance. D'un coup de carabine, l'achève. On pousse du pied le cadavre. Et c'est, comme vous le disiez, c'est extraordinairement efficace parce qu'on y est. On le voit. Et avant, Vuillard dit cette chose tellement vraie. L'histoire est morte. Il n'y a plus que des punaises. Le bruit de l'iniquité en mouvement se reconnaît. C'est quand même une écriture absolument époustouflante, une manière de nous faire comprendre le cynisme des vainqueurs et puis le renversement des valeurs. Et alors ça, ça pas de, hélas, c'est pas daté ça.
Malheureusement.
Vraiment, je suis très très heureuse que. Vous soyez venu dans l'émission, Laurent Matron, parce que vous nous faites découvrir un petit bijou ou redécouvrir. Vraiment, lisez Éric Vuillard. Moi, j'avais pas lu Tristesse de la Terre. Je me dis, bon, le titre, Tristesse de la Terre. Et puis, vous démarrez et vous pouvez pas décrocher.
Exactement.
La réalité, c'est qu'on démarre, on peut pas décrocher parce que c'est efficace.
Et il faut dire quand même que. La fin est très.
Faut pas spoiler, la
non,
fin.
Non, je vais pas spoiler la fin, mais.
Faut
mais
pas
il faut.
Spoiler, Laurent, sinon il ne faut pas
s'arrêter à Tristesse de la Terre, à ce titre.
Bien sûr.
Parce qu'il y a quand même de l'espoir.
Bien sûr.
Et il est question de neige. Voilà. Et ça, c'est.
La fin est très belle, vous avez raison de le dire.
C'est mon autre passion dans la vie. Voilà.
Il y a une chose que vous n'avez pas dite, cher Laurent Matron, c'est qu'on a quelques photos.
Oui.
En noir et blanc.
Exactement, qui donnent de la force au texte. En fait, il n'est jamais question d'illustration, ni du texte, ni commentaire des photos. Mais effectivement, ces regards, ces visages d'Indiens,
qui ont beaucoup d'allure d'ailleurs. Il y en a une avec Buffalo Bill derrière les Indiens.
Voilà, et puis il y a ce méchant Leonard Colby qui va récupérer la petite le petit bébé. Voilà, simplement la photo de cet homme.
Bon, on me fait signe derrière la vitre, il faut arrêter. Voilà, cher Laurent, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RCJ, c'est aussi sur le DAB+.
Breslev Boost avec Francky Pérez.
Cela peut nous sembler étrange, presque renversant, mais c'est la vérité. On nous répète qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut affronter la réalité. Mais je vous dis du fond du cœur, les amis, la grande illusion, c'est la réalité elle-même. Ce qu'on appelle réel n'est souvent qu'un écran qui cache la présence divine. La seule vraie réalité, c'est la émouna, la foi vivante, la conscience vibrante que Dieu dirige chaque détail du monde et que rien n'existe en dehors de lui. Regardez autour de vous. Lorsque le peuple d'Israël se tient avec Dieu, les lois naturelles s'inclinent, les limites tombent, l'impossible devient réalité. Et c'est ça, la réalité la plus profonde. Hachem est ici, maintenant, avec nous. Dans chaque souffle, dans chaque victoire, dans chaque instant. Le message du ciel est clair. Préparez-vous, ouvrez vos yeux intérieurs, entrez dans la Emouna, nous allons vivre des choses qui dépassent l'entendement. Et ceux qui auront les yeux du cœur ouverts verront des merveilles. Shabbat Shalom.
Vous êtes sur RCJ. La musique de ma vie, Laurent Couson.
Bonjour à tous, bienvenue dans La musique de ma vie, votre respiration de musique classique sur RCJ. Alors notre invitée aujourd'hui est une actrice, réalisatrice, une personnalité très sensible à l'art et à la musique en particulier. Sa carrière est marquée par une diversité de rôles que vous connaissez sûrement allant de la comédie au drame, mais c'est aussi en tant que productrice qu'elle donne un nouveau visage au cinéma français, notamment en faveur des droits des femmes. Mais depuis 2021, elle est aussi la fondatrice et directrice d'un formidable festival de rencontres Entre la musique et l'image, le festival Sœurs Jumelles à Rochefort. C'est un festival exceptionnel où se côtoient, dans une grande bienveillance et fraternité, des rencontres professionnelles de haut niveau, autant que des concerts populaires qui ont rendu incontournable ce rendez-vous en Charente-Maritime. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous recevoir pour en parler et connaître aussi les musiques de votre vie. Bonjour Julie Gaillet.
Bonjour, merci, merci beaucoup pour ces mots.
Une amoureuse des arts, une passionnée de la musique, ça vous correspond, Julie?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et de la musique, puisque j'ai eu envie de la faire rencontrer mon monde aussi d'aujourd'hui, qui sont le monde des images. Et quand je dis images, c'est parce que je pense à plus largement cinéma d'animation, mais aujourd'hui la série... qui est très importante pour tous, ou encore même pour les jeunes, le jeu vidéo, où il y a de la musique, donc c'est cette idée de toutes les images.
Comment s'est arrivée cette passion dans votre vie? D'ailleurs, vous n'êtes pas, vous, d'une famille d'artistes, alors d'une manière générale, comment
pas
la culture arrive dans votre vie?
Comment la culture... Ah, c'est fou que vous me posiez cette question. Elle est arrivée... mes parents voulaient qu'on joue d'un instrument, parce qu'ils ne jouaient pas d'instrument.
Oui.
Donc j'ai commencé avec des cours de piano. Et mon professeur de piano donnait des cours de chant. Donc je commence à chanter très jeune.
Du chant lyrique.
Ouais. Et j'ai cette chance incroyable, puisqu'en fait, l'art est rentré dans ma vie par Tosca Marmor, qui est une femme... fabuleuse, de vie, d'énergie, qui m'insuffle, qui me donne confiance en moi, et surtout qui trouve que j'ai un don, une voix, une sensibilité. Je pense que là, elle n'avait peut-être pas tort sur le côté très sensible, mais en tout cas, elle me pousse à continuer. Et voilà. Et un jour, j'ai découvert, puisque, regardez, peut-être vous découvrirez son histoire, c'était l'été, elle avait une robe comme j'ai là, et je vois un numéro tatoué sur son bras. Et en fait, elle était à Auschwitz, elle a fait cette grande marche. Mais ça a été ma maman, celle qui m'a j'aurais jamais pu faire ce métier sans elle, et qui me disait que les artistes, on n'avait pas de vacances. Alors c'est pour ça aussi peut-être que je suis trop suractive grâce à elle, mais elle m'a insufflé cette énergie de transmettre cette passion et l'art.
Tosca Marmor.
Tosca.
On a un nom d'opéra.
Marmor. Oui. Et elle avait écrit un livre qui s'appelait Le Piano Rouge. Mmh. Voilà, sur cette expérience, regardez.
On va la suivre. Alors pourquoi pas une carrière de chanteuse lyrique alors?
Alors, au grand dame de Tosca qui aurait adoré ou qui pensait que j'aurais dû faire cette carrière-là, c'est en interprétant Les Noces de Figaro et le rôle de Barberine, qui était très triste, désespérée, voilà, dans l'opéra de Mozart, que tout à coup j'ai eu envie d'aller plus loin et d'être désespérée comme mon personnage. Mmh. Et donc je me mets à pleurer. Et j'ai compris, ou je comprends à ce moment-là, qu'on ne peut pas chanter et pleurer. Et là, ça a été un choc. Vraiment, on ne peut pas... et ça, c'est quand même surprenant. Je sais, ça veut dire que quand on chante, on joue au désespoir.
Ah, à l'opéra, on fait toujours un peu semblant d'eux. Parce que c'est vrai que, malheureusement, c'est pour ça que parfois les codes de l'opéra font un peu peur aux gens. Les chanteurs sont obligés de mettre en avant d'abord la voix.
Exactement, la technique, la voix, voilà. le son, et
c'est
puis même...
C'est déjà très difficile à chanter.
Mais c'est déjà fabuleux, parce que ça résonne, ça vibre en soi, c'est tout... L'instrument de musique, c'est le corps.
Ouais.
Mais moi, je voulais aller encore plus dans les émotions. Et donc, elle me dit, ça, c'est la porte à côté au conservatoire, c'est les cours d'interprétation de théâtre. Et j'ai poussé la porte, et là, joué, Tchekhov. Et Tchekhov, ça a été une révélation, le théâtre, et j'ai plus jamais cessé. Alors, pendant un temps... J'ai fait les deux, et à 21 ans, j'ai décidé d'arrêter, et donc voilà.
Puis
Tosca nous a quittés pas longtemps après, donc voilà.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même prendre encore une partition et la chanter, j'imagine.
Je pourrais, mais je le fais dans les films, en fait. Donc Clara et moi, qui était un très joli film avec Julien Boisselier, je chantais sur les quais. Je chante dans les personnages, dans le rôle, dans la voix du personnage. Mais par contre, c'est vrai que j'attaque ou je commence un rôle en réfléchissant à sa voix.
À la voix.
Mmh. Est-ce qu'elle a... Ah ben voilà, là ce matin c'est ma voix, mais... Est-ce qu'elle a une voix beaucoup plus grave? Est-ce qu'elle est très comme ça? Ou elle parle très lentement, ou alors elle a une petite voix un peu plus retenue, ou alors elle parle très vite, elle est très aiguë. Et donc, en fonction de la façon de mon personnage, je trouve sa voix. Et je... C'est marrant.
Très intéressant, il y a un très très fort Julie Gayet, donc avec la musique classique et la musique lyrique en particulier. Alors, ce matin, on va parler aussi de votre festival que vous avez choisi de placer dans une ville devenue mondialement célèbre, notamment grâce à ceci. Demoiselle de Rochefort, bien sûr, le film de Jacques Demy, la musique de Michel Legrand, Julie Gayet, ce film, il vous a marqué alors?
Mais non, mais c'est la comédie musicale, on aurait pu faire aussi les Nous sommes de sœurs jumelles, voilà. Et d'où le nom Sœurs jumelles pour le festival, la musique et l'image sont sœurs jumelles. C'est Jacques Demy et Michel Legrand, c'est cette rencontre inoubliable, enfin quand même, quel compositeur.
Des plus grands. Comment elle est venue l'idée de ce festival? Alors là, vous nous avez expliqué le concept et vous mettez, alors ça c'est quand même assez rare, merci pour ça, les compositeurs à l'honneur. Hein. Mais pas que, la programmation est très éclectique.
Oui mais non, les compositeurs, c'est-à-dire que derrière une œuvre, même quand dans un film comme les films de Tarantino par exemple, il y a très peu de compositions originales, mais il y a il achète, il fait ce qu'on appelle, il achète des titres, voilà. Il y a bien des musiciens derrière quand même qui ont composé ces morceaux et qui, eux, vont toucher des droits d'auteur. Et à l'époque, à notre époque, avec l'IA, l'intelligence artificielle et toutes ces idées de droits d'auteur aussi, de questions, je me disais, tiens, c'est pas inintéressant, la musique a été frappée par le numérique, par les plateformes, avant nous, l'image, aujourd'hui c'est l'image, peut-être qu'il y a une discussion entre nous qui serait nécessaire. Et puis aussi, dans cette période où justement on ne parle que des tuyaux, que des plateformes et pas des créateurs, de remettre les trois auteurs d'un film, ou en tout cas les deux importants, même s'il y a le scénariste qui est le troisième auteur, c'est le réalisateur et le compositeur. Et
Merci de mettre les créateurs en avant. Mais vous parliez de ces difficultés. C'est vrai que le métier de compositeur est en grand danger par l'IA, vous l'avez dit, puis par le fait aussi qu'il y a peu de festivals ou d'institutions comme les vôtres qui programment des compositeurs vivants. Alors vous pensez qu'on n'aborde pas assez ce problème dans la sphère médiatique, politique? Que faut-il faire?
Oui, puis alors... C'est-à-dire qu'avec tous ces algorithmes, tout se ressemble, donc tout est programmé un peu de la même manière. Donc je me suis dit, tiens, ça va être un petit pas de côté pour que vous allez dans un festival où vous allez voir une programmation que vous ne voyez pas ailleurs, ou en tout cas qui va vous surprendre. Et aussi le contact humain, c'est-à-dire à taille humaine, c'est ça que j'aime dans Rochefort, cette petite ville de Charente-Maritime, mais c'est que tout est à pied ou en vélo, et vous avez ce qu'on appelle les rencontres artistiques dans le théâtre de la Coupe d'Or, où là, il y a des échanges, et on comprend par exemple Tapia Devers, qui est le compositeur de la musique de White Lotus. Je ne sais pas si vous avez vu la série tous, mais c'est un très grand compositeur. Il sera là, et il vient parler de ce rapport, voilà, de lui. Mais il y a aussi Benjamin Biolay, qui vient parler de Brassens. Il peut y avoir... Audrey Ismaël, grande compositrice, qui vient avec trois réalisateurs avec qui elle a travaillé. Vanessa Philo pour Le Consentement, Julien Colonna pour Le Royaume, et Agathe Redinger pour Diamant Brut. Et ils viennent, ils parlent, et il y a toujours, toujours un moment où on joue de la musique. Il y a du live. C'est ça l'important.
Non, mais ce qui est formidable dans votre festival, c'est qu'à la fois, il y a des grands concerts populaires hein, dans ce site magnifique, là, qui est le jardin de la Corderie Royale.
Oui, la Corderie Royale.
Magnifique.
La pelouse immense.
Il y a des rencontres professionnelles, vraiment de haut niveau, entre les gens du métier. Et ça, c'est important, parce que les compositeurs ne rencontrent pas forcément facilement les metteurs en scène avec lesquels ils vont collaborer.
Voilà, il y a des speed meetings, il y a des superviseurs internationaux du monde entier, il y a tout. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir, alors prendre une accréditation et venir pouvoir parler, prendre un café, déjeuner ensemble, échanger avec les musiciens.
C'est un festival formidable, je le recommande à tout le monde. Parmi les grands concerts de ce festival, on va écouter notamment ceci. Alors ça, c'est les sœurs Labeck, chère Julie Gaillet, qui jouent la musique de Philippe Glass, et c'est un concert, concept un peu particulier qui va avoir lieu pendant le Festival Sœurs Jumelles.
Mais oui, vous avez vu cette grâce, cette poésie, c'est magnifique, jamais non, et donc elles sont sœurs, pas jumelles, mais presque, comme en face à face, elles ont... tout le monde les connaît, moi je les trouve tellement rock'n'roll les sœurs Labeck, évidemment on ne les présente plus.
Bien sûr.
Mais ce qu'elles font, c'est ce qu'elles ont... Puisqu'elles viennent à Sœurs Jumelles, elles sont obligées de mettre des images. Donc le concert va avoir des images, des films de Cocteau, ou de Cocteau lui-même qui parle, avec des images d'archives de Lina, puisque nous sommes avec un partenariat avec Lina Madeleine. Et voilà, et on fait ce travail, donc ça va être assez inédit. Et surtout, à la fin du concert, c'est Mischka Sayas qui va les interviewer, ça s'appelle un bord-plateau, pardon. Elles discutent sur leur rapport à l'image, où là... C'est ça aussi, Sœurs Jumelles. C'est autant, ben, évidemment, les réalisateurs et ce qu'on appellerait la musique à l'image, ou ce qu'on appelle la musique à l'image, et qui viennent parler de leur rapport à la musique, que les musiciens, et là, moi, j'appelle ça l'image pour la musique, qui viennent parler de comment, quand on compose, on peut avoir des images dans la tête, ou comment on a besoin d'images comme artiste, comment que ce soit le clip, ou que ce soit... les documentaires musicaux. Et on projette 8 documentaires musicaux inédits qui ne sont pas encore sortis en France sur des musiciens. Et ça, c'est l'image pour la musique.
Magnifique. C'est vrai que quand on écoute une musique comme ça, on se laisse aller à son imagination. On imagine déjà des images.
Et Philippe Glass, grand compositeur de musique de film, mais elles ont, vous avez vu cette interprétation. Oh, ça va être sublime. Ça c'est le 24 juin en ouverture à la Coupe d'Or.
Le 24 juin, les Sœurs Labeck. Alors, il y aura plein d'autres concerts avec aussi des têtes d'affiche, avec Souchon, avec Compromat, avec qui j'ai vu.
Kavinsky. Oui, Souchon, qui, son rapport à l'image, vous voyez forcément. Kavinsky, parce qu'il y avait la musique de Drive de ce film. Donc, quand je vous dis que c'est très original, c'est très. Et puis, il y a Laurence Equilbé.
Ah oui, alors ça, on va en parler. Parce qu'effectivement, s'il y a une musique classique qui est assez favorite dans le cinéma, c'est la musique baroque.
Absolument.
On va écouter, d'ailleurs, on va s'amuser à écouter quelques extraits de grands tubes baroques et de retrouver de quel film ils sont issus. De Handel. Alors ça, Julie Gaillet, c'est...
Ça, c'est facile. Non.
Ouais.
Alors
c'est Barry Lyndon.
Bah oui, Barry Lyndon.
Le film de Kubrick. Alors c'est vrai que là, elle a été réarrangée un peu pour le film, mais...
Je pense que les gens pensent Barry Lyndon quand ils l'écoutent, ne savent plus que c'est la sarabande,
de Handel. Alors là, pour le coup, c'est vrai que cette musique, elle illustre bien tout au long du film comme un peu la marche du destin qui accompagne ce personnage tragique.
C'est ce que fait Laurence Equilbé avec l'orchestre Insula Orchestra. Ouais. Ils viennent à Rochefort, c'est quand même tout l'orchestre, sur la grande scène. Et après, il y a Kavinsky, donc c'est pour vous dire le grand écart, et c'est ça qui est rigolo. Et ils vont jouer ces grands airs avec des extraits de films, avec une explication de tous les films dans lesquels on les trouve, c'est-à-dire tous ces extraits de musique, baroque. Puisque c'est une... D'ailleurs, il va y avoir des musiciens baroques avec des vieux instruments, enfin voilà. Je ne veux pas vous vendre... Et c'est un YouTuber qui a travaillé avec elle, qui a mis en image, c'est hyper drôle, c'est familial, c'est magnifique. Et ça, c'est le jeudi 26 juin. Alors, je vais vous donner tout le programme, juin. Vous allez voir.
Voilà. Alors on entendra aussi sûrement ceci. Funeral for the Queen Mary, ça c'est Henry Purcell. Et ça vient de quel film ?
Mais Orange Mécanique.
Orange Mécanique, où il y a pas mal de tubes classiques.
C'est atroce ce film. Ouais. Moi, après, je me souvenais de cette musique, mais oui, absolument. Il y a des grands, grands tubes, il y a encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Cinquième de Beethoven.
Ouais, Mozart, dans...
Et comment se fait-il, à votre avis, vous qui êtes réalisatrice, pourquoi la musique baroque est souvent utilisée au cinéma, et d'ailleurs notamment pour parfois illustrer la violence ?
La violence ou le malaise, ou il y a comme ça quelque chose de détonnant, mais venez voir le concert de Laurence Equilbé.
On saura tout.
Parce que c'est exactement, alors je voudrais vraiment pas le spoiler, mais c'est vraiment ça. C'était qu'elle vous donne la clé et elle vous explique pourquoi.
Un dernier extrait des musiques qu'on entendra ce soir-là. originale hein, de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, évidemment. Alors là, on pense à Casino. Hein, vous savez, quand Robert De Niro est pris dans son attentat, ou même à Godfather 3,
dans, oui, mais dans tellement de films.
Ça a été tellement utilisé.
Tellement de films. Mais c'est ça, voilà. C'est pour ça que j'avais envie. C'est, je pense que j'aime tellement la musique. J'ai aimé la musique. Enfin, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. J'avais envie de. Voilà, les grands compositeurs alors, classiques que vous connaissez aujourd'hui, vous. Vous, Laurent, dont vous allez venir, puisque vous êtes compositeur aussi, mais...
Avec grand plaisir, Julie. J'y étais l'année dernière, j'ai passé un tellement bon moment.
Je ne savais pas, mais personne ne me dit rien. Vous étiez caché, vous avez non, fait les... Pas...
Vous êtes... je vous ai vu, vous courez partout, de, justement. Ce que vous avez dit, parce qu'il y a plusieurs lieux, de la grande scène à l'hôtel où il y a les rencontres, au théâtre, les cinémas.
Ouais, c'est vrai,
je
c'est
sais
vrai.
Qu'une directrice de festival, pendant un festival, ce n'est pas le meilleur moment pour lui parler.
Mais non, et puis c'est vrai que j'essaye de faire que cette année, au moins la directrice du Festival de Cannes et la présidente du Festival de Cannes, Iris Knobloch, et la directrice de Cérimania, Laurence Herzberg, seront là dans ces rencontres pro. Donc quand elles arrivent, bon, ben forcément je vais accueillir les unes les autres. Donc je suis désolée, mais voilà, cette année je vais vous faire travailler peut-être.
D'accord, avec grand plaisir Julie. Le festival Sœurs Jumelles, donc c'est à Rochefort du 24 au 28 juin prochain, avec concerts, projections, les rencontres, les tables rondes, une ville magnifique. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à s'y rendre. Hein. Je vous assure que vous passerez un grand moment. Merci Julie de défendre comme ça les créateurs. Ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
Merci de votre venue dans la musique de ma vie. On va se quitter, tiens, avec Chinese Man. Parce
oui,
que ça, j'ai vu que c'était
vendredi.
À l'affiche.
Oui, le vendredi 27 juin.
C'est un super groupe, Chinese Man. Je suis très fan.
Je les avais utilisés dans mes documentaires, moi, comme réalisatrice. J'avais fait des documentaires sur la place des femmes. Et je les adore. Ils viennent de Marseille. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Vraiment, venez découvrir Chinese Man.
Ah, c'est fantastique.
On 27 juin.
On se quitte avec un extrait de leur nouvel album. Vous l'entendrez sur scène à l'Accorderie Royale, chers amis. Merci, Julie.
Merci encore.
Bonne journée à vous tous, les amis. À la prochaine fois.
À bientôt. Au revoir.
Cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas. Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bainetdeco.fr.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite? Gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non, mais attention. Ah, c'est moi, l'attention. Hein. C'est pas la démocratie, c'est une dictature ici. C'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés. Soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr, Bambi, Paris.
Bonjour, les frères Nakash. Nous serons le 10 septembre prochain en concert, salle Gaveau. On va se revoir, se retrouver. Bienvenue.
Retrouvez les frères Nakash en concert, mercredi 10 septembre, 20h, salle Gaveau. Réservation salgaveau.com et au 01 49 53 05 07, les frères Nakash en concert avec le soutien de RCJ.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ, un média du Fonds social juif unifié.